Je maintiens ce point de vue, mais cela a suscité beaucoup d'opposition. Ma nomination a suscité des protestations et les militants pro-vie m'ont qualifié d'homme le plus dangereux du monde. C'était bizarre. Je pense qu'un événement crucial s'est produit. J'allais faire un diplôme de droit et un conseiller de l'université de Melbourne a regardé mes résultats aux examens finaux du lycée et m'a dit: Écoute, tu as eu de bons résultats en littérature, en histoire et en langue. Pourquoi ne trouverais-tu pas le droit un peu ennuyeux? Pourquoi ne pas combiner ça avec une licence d'art? Alors j'ai dit super, ça a l'air sympa. Et je ferai de l'histoire en licence d'art, mais il faudra aussi faire une deuxième spécialisation. Ma sœur aînée avait un petit ami qui avait fait de la philosophie et j'ai essayé de lui parler, ça avait l'air sympa. À l'époque, la philosophie n'était pas enseignée au lycée. J'ai donc fait de la philosophie et je pense que si je voulais faire du droit, c'est parce que j'aimais bien argumenter, mais en philosophie, on peut aussi argumenter, et on n'est pas obligé de défendre la partie qui nous paye. Il y a donc clairement un avantage. C'est pourquoi je pense que j'ai fini par faire de la philosophie. Ce sont des piliers essentiels pour moi.
Et pour vous, le nom est bien sûr synonyme de droit des animaux. Comment la question des droits des animaux a-t-elle pris une telle importance dans votre vie?
Oui. J'étudiais l'éthique. Je m'intéressais déjà à des questions pratiques ou appliquées liées à l'éthique. J'avais participé au mouvement de protestation contre la guerre du Vietnam. Je m'intéressais donc aux questions de justification d'une guerre, à l'obligation de respecter la loi, car nous pratiquons la désobéissance civile. Je m'intéressais également à la question de l'avortement, qui faisait alors la une des journaux à Melbourne, car les lois étaient appliquées depuis des années. Puis, un chef de la brigade criminelle catholique a décidé de faire appliquer les lois interdisant l'avortement. J'en ai parlé dans le journal étudiant de l'université de Melbourne. Ces questions m'intéressaient, mais les animaux ne m'étaient jamais vraiment venus à l'esprit, et je n'étais pas un fervent défenseur des animaux. Je n'avais pas d'animal de compagnie ni rien de ce genre. Mais en 1970, j'ai déjeuné avec un étudiant canadien que je venais de rencontrer en cours et nous parlions de quelque chose en cours, rien à voir avec les animaux. Mais quand nous sommes allés déjeuner au Bale College, pour poursuivre la conversation, il a demandé s'il y avait de la viande dans la sauce des spaghettis. Et quand on lui a répondu que oui, il a pris l'assiette de salade. Alors je les ai pris, j'ai pris les spaghettis, et après avoir fini notre conversation, j'ai dit, parce que c'est vraiment inhabituel de rencontrer quelqu'un qui ne mange pas de viande. Puis, en 1970, j'ai dit, alors, quel est ton problème avec la viande? Et vous savez, je ne sais pas trop ce que j'avais en tête. Je pensais qu'il avait peut-être des raisons de santé contre, ou peut-être qu'il était un pacifiste complet qui pensait que tuer, c'était mal, mais il a dit quelque chose de bien plus simple que ça. Il a dit, je ne pense pas qu'il soit juste de traiter les animaux comme ils sont traités pour être transformés en nourriture. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi pas, vous savez, n'ont-ils pas une belle vie? Ils sont dans les champs à paître, et ils sont protégés des prédateurs. Ils ont assez à manger. Et oui, bien sûr, je sais qu'à la fin, ils sont transportés à l'abattoir et tués. Et c'est dommage, mais leur vie, dans l'ensemble, ne me semblait pas si mal. Mais mon nouvel ami a dit non, on les emmène à l'intérieur maintenant, ils sont surpeuplés et, en gros, on leur fera tout ce qui est rentable. J'ai été surpris. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ce n'était pas très connu. Il m'a renvoyé au seul livre qui avait été écrit, Animal Machine, de Ruth Harrison, publié quelques années plus tôt, mais qui avait reçu très peu d'attention. Je l'ai lu et j'ai trouvé que les preuves étaient assez claires. Elle a fourni des sources pour ses propos. Je me suis demandé quel est le statut moral des animaux et qu'est-ce qui justifie qu'on les maltraite ainsi pour qu'ils entrent dans la viande que j'ai mangée toute ma vie. J'ai examiné ce que les philosophes avaient dit. Aristote a mentionné lors de la dernière séance qu'il pensait que le moins rationnel sert le plus rationnel. Mais il pensait aussi que cela signifiait que les Grecs pouvaient asservir les non-Grecs. Et eux, on ne peut pas, eux. Il a dit qu'on n'avait pas de devoir envers les animaux parce qu'ils n'ont pas de conscience de soi. Mais vous savez pourquoi la conscience de soi devrait être ce qui compte? Le fait de pouvoir ressentir la douleur ne suffit-il pas? Rien de tout ça ne m'a convaincu. Et je me suis dit, oui, non seulement je ne devrais pas manger de viande, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche dans notre façon de considérer les animaux, ou dans le fait que nous ne les considérons pas vraiment comme des questions éthiques. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur ce sujet.
Je voudrais vous interroger sur ce changement ces dernières années vers une moralité absolue. Nous avons dit plus tôt que nous n'allions pas parler de ce changement de subjectivité, car ce n'est pas le terme que vous utiliseriez, mais pouvez-vous nous parler de ce changement? Et d'où il vient?
Oui, mais je ne veux pas vraiment utiliser le terme « absolu » non plus. Je préfère utiliser le terme « objectif ». Désolé. C'est parce qu'absolu a deux sens. On peut l'utiliser dans le sens d'une morale objective, mais on l'utilise parfois pour une morale qui affirme que certaines choses sont mauvaises en toutes circonstances. Ainsi, une morale absolue pourrait affirmer qu'il est toujours mal de prendre intentionnellement une vie humaine innocente. Et je dis que c'est toujours mal, et il existe au moins des circonstances imaginables où je pense que cela pourrait être défendu afin d'éviter la perte de bien d'autres vies humaines innocentes. Donc, restons-en à l'objectif et au non-objectif. Je pensais qu'il n'existait pas de véritable morale objective. Je pense avoir été influencé par mon directeur de thèse à Oxford, RMR, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'éthique, dont l'un s'intitulait « Liberté et raison ». Et il pensait que, d'une certaine manière, nous sommes libres de penser ce que nous voulons de la morale, et pourtant, il pensait que la raison avait un rôle à jouer dans la morale, et c'était en quelque sorte son dilemme. Et je ne pense pas qu'il ait jamais vraiment démontré comment ces deux choses étaient compatibles, ou allaient de pair. J'étais donc influencé par l'épreuve, pensant que la morale n'est pas objective, qu'on pourrait la qualifier de subjective, ou qu'il y a une certaine liberté de penser ce que l'on veut de la morale. Mais, après avoir obtenu mon diplôme et être professeur, j'ai essayé à maintes reprises de comprendre le rôle que la raison pouvait jouer dans ce système, et finalement, j'ai décidé que je n'y arriverais pas. À la même époque, j'ai commencé à travailler sur un livre sur Henry Sidgwick, utilitariste de la fin du XIXe siècle, qui était objectiviste. Je l'ai fait avec un co-auteur du philosophe polonais Katarzyno, le Lazari Rodik, et nous avons fini par défendre le subjectivisme de Sidri. Cela m'a amené à penser, d'accord, il existe une défense possible de l'objectivisme. Et puis, bien sûr, on n'a pas ces difficultés à démontrer le rôle de la raison dans l'argumentation morale. J'ai également été influencé par Derek Carré, le regretté philosophe d'Oxford, décédé il y a 5 ou 6 ans, et par Tom Nagel, un philosophe américain. Je pense donc que plusieurs influences m'ont amené à penser que, tout compte fait, leurs arguments étaient plus convaincants que les opinions d'Hérode.
Je voulais vous interroger sur une citation qui vous est attribuée. « Toute action devient un devoir si elle prévient plus de douleur qu'elle n'en cause, ou si elle procure plus de bonheur qu'elle n'en prévient. » Comment déterminer cela, puisque la douleur peut être mesurée individuellement ou collectivement, puis collectivement? Les intérêts peuvent primer sur les intérêts individuels. Comment évaluer cela?
N'est-ce pas? Je pense donc que cette affirmation peut être défendue, même si elle est incertaine, car elle suppose que l'on sait qu'une action produira plus de douleur qu'une autre. Et je pense qu'il y a des cas où c'est vrai, n'est-ce pas? En fait, je pense que c'est clairement vrai dans le cas de l'élevage intensif d'animaux, qui leur inflige une vie misérable, par rapport à, si vous aimez la douleur, ou peut-être que certains verront comme la perte du plaisir de ne pas pouvoir manger ces plats particuliers alors qu'il existe d'autres aliments qui vous nourrissent parfaitement. Et vous savez, il y a de nombreux cas où nous prenons des décisions, je suppose, sur ce qui va nous faire plus ou moins mal. Oh, j'ai un peu mal aux dents. Si je vais chez le dentiste, il va probablement me faire un plombage, ce qui est assez inconfortable, voire douloureux. Mais si je ne le fais pas, le mal de dents va empirer. Donc, je réduis la douleur en allant chez le dentiste maintenant. Je pense qu'il y a des cas où l'on peut faire cette distinction assez clairement. Il y a d'autres où c'est très difficile, et peut-être qu'il y a des cas où on n'arrive vraiment pas à trancher. Donc, ce n'est pas que l'utilitarisme puisse toujours vous dire quoi faire, malgré votre manque de connaissances claires sur les comparaisons de douleur et de plaisir. C'est un problème, alors. Mais c'est un problème pour quiconque veut rendre compte de la souffrance, du bonheur, de la douleur ou du plaisir que vous causez. Et je pense que nous devrions tous en tenir compte. C'est pourquoi, comme je l'ai dit précédemment, je ne pense pas qu'il existe de règles auxquelles on puisse adhérer quelles que soient les conséquences, car les conséquences doivent jouer un rôle. Et même si l'on considère les droits comme fondamentaux, on peut toujours penser que pour éviter une catastrophe, il faut parfois violer les droits de quelqu'un si les conséquences sont bien pires. On ne peut donc pas vraiment se passer de ces comparaisons ou de ces regroupements. Le New Yorker.
Vous considérez comme un philosophe dangereux. Pourquoi vous considère-t-il comme un philosophe dangereux?
Je pense que le New Yorker répétait des choses qui ont été dites à mon sujet. Je ne pense pas que New York ait nécessairement approuvé ce jugement, mais cela remonte à ma nomination à Princeton en 1999. J'avais déjà eu des affrontements en Australie avec une organisation appelée Right to Life Australia, opposée à l'avortement et à l'euthanasie, ou à l'aide médicale à mourir. Je défends le droit des femmes à décider si elles souhaitent rester enceintes ou non, et le droit de mourir lorsque l'on estime que sa qualité de vie est tombée à un niveau inacceptable et qu'elle ne reviendra pas à ce niveau. Par exemple, si l'on est atteint d'une maladie incurable ou en phase terminale. J'ai également soutenu, de manière peut-être plus controversée que ces deux-là, que lorsque des bébés naissent avec de très graves handicaps, les parents devraient également avoir le droit de décider s'il est préférable pour leur enfant de vivre ou non. J'ai développé cet argument car je dirigeais un centre d'éthique des infections virales à l'université de Melbourne. Le directeur d'une unité de soins intensifs néonatales d'un des principaux hôpitaux de Melbourne nous a contactés au sujet d'un dilemme concernant les nourrissons nés avec de graves handicaps. Ils envisageaient d'interrompre le traitement de ces bébés, de ne pas les traiter, car, en consultation avec les parents, ils estimaient qu'il valait mieux qu'ils ne survivent pas, compte tenu de la gravité du pronostic. Mais ne pas les traiter signifiait une mort assez lente. Dans certains cas, s'il avait besoin d'un respirateur, il mourrait en quelques heures, mais dans d'autres cas, sans respirateur, il pouvait mourir en quelques semaines, voire en quelques mois. Cela semblait une épreuve assez terrible. Après avoir écouté le directeur, mon collègue El Gakouza, qui travaille également avec moi au centre, et moi-même avons décidé que la décision selon laquelle il valait mieux que le nourrisson ne vive pas était raisonnable. Mais la méthode utilisée pour provoquer la mort du nourrisson, lorsqu'aucun respirateur n'était nécessaire, était cruelle pour les nourrissons et pour les parents qui attendaient la mort de leur enfant, ainsi que pour le personnel soignant. Nous avons donc suggéré qu'il serait préférable d'autoriser l'injection létale à l'enfant une fois la décision prise. C'est toujours mon avis. En fait, c'est désormais possible aux Pays-Bas. Je pense que c'est le seul pays où c'est possible. Mais le retrait des traitements se produit partout dans ce pays, comme ailleurs. Je maintiens donc ce point de vue, mais cela a suscité beaucoup d'opposition. Ma nomination a suscité des protestations. C'est un autre exemple où, selon moi, l'université de Princeton n'a pas défendu la liberté d'expression malgré ses protestations. Les militants pro-vie m'ont qualifié d'homme le plus dangereux du monde. C'était bizarre. Je crois que ça s'est terminé avec le 11 septembre et qu'Oussama Ben Laden est devenu l'homme.
Le plus dangereux, juste après Ben Laden. Il
y en avait d'autres à l'époque.
Pour que la philosophie ne reste pas une conversation purement intellectuelle, quel est, selon vous, le problème le plus urgent que les philosophes doivent aborder dans le monde d'aujourd'hui? Pas un problème théorique, mais un besoin concret pour l'application de la théorie.
Pour continuer à regarder cette vidéo, cliquez sur le lien en haut à gauche ou dans la description ci-dessous.